Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International sur RFI en ce début de semaine. Et oui, Lionel Messi est apparu vêtu d'un nouveau maillot portant le numéro 30. La recrue star du PSG a joué une trentaine de minutes hier à Reims, ovationné par Auguste Delaune. Pourtant, c'est Kylian Mbappé qui a inscrit les deux buts de la soirée. Mbappé n'est-il pas la vraie star de ce club ? Et derrière le PSG, il y en a d'autres des clubs, 19 même, dont l'OM, apparemment sensible aux consignes et à la folie. Sampaoli, grâce encore aussi à Dimitri Payet en grande forme. Alors que Lyon, Lille et Monaco ont enfin lancé leur saison avec une première victoire. La première ligue dans l'attente de CR7, Manchester United, a-t-il besoin de la star portugaise ou le vestiaire mancunien est-il déjà bien rempli? Les autres mancuniens, les Citizens, ont atomisé les Gunners. Arsenal est-il au plus mal? Alors que la confrontation Reds et Blues, Klopp et Tuchel, finissait par un nul. Deux équipes peut-être du même niveau. Pour évoquer ces sujets, bien, on a dit qu'on parlait de l'OM, alors on a un Marseillais. Bonjour.
Bonjour,
bonjour Marc Livra.
Bonjour.
Tout va bien ?
Très très bien, ouais. Oui. Je jamais les premiers. Pas. Non, il faut la sortir, il faut la petite piqûre
faut
de rappel.
Il faut jamais l'oublier.
Mais on peut pas l'oublier, Annie, c'est impossible.
On va parler de Cristiano Ronaldo. Alors on s'est dit que Nicolas Villas, ça serait pas mal. Bonjour Nicolas.
Oh la vive.
Tout
oui,
bien.
À jamais les prochains. Le prof, il fallait que je dise un truc. Sans souvenir aussi. T'as.
Bonjour Nicolas. Alors votre ami, camarade, j'espère, de RMC
non,
Sport.
Non, on se voit.
Non, on se déteste.
On fait semblant à l'antenne, mais on peut pas se voir.
On se déteste.
On va parler de la première ligue. Alors on s'est dit qu'aussi,
Salim Bomgali. Il m'a piqué 2-3 panini l'autre jour au boulot, ça m'a rendu. Du coup, on se parle plus.
Bonjour Salim Bomgali.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Vous arrivez dans la même voiture, non? Je
oui,
dévoile un secret.
Du travail, ça nous regarde, Annie. Commencez pas, là.
Laurent... Mais à 30 km/h.
Hein. Oui, oui, attention.
Ils sont partis il y a une heure. Ils sont à côté.
Attends, il nous apparaît une craque guédingue.
Laurent Salerno est là, derrière la vitre, fidèle à la réalisation, alors que David Finzel, et lui, il veille sur l'information.
Oui, il fait pas grand-chose. Hein,
mais il veille. Oui, il veille. Radio Foot, c'est parti.
Dans cette sainte ville... Béni de la main de Dieu notre Père Tout-Puissant, je te s'accompte souverain, seigneur et roi, et ce, tant que Dieu te prêtera vie.
Et celui qui va être impliqué, c'est Léo Messi.
Écoutez Delaune.
Sacre en mondiovision, la consécration du roi du football dans la ville des sacres, la ville de Reims. Attendu comme le Messie par les 20 000 spectateurs du stade Auguste Delaune de Reims, donc Léo est entré en jeu à la 66e minute de ce match au stade de Reims-PSG, vêtu de bleu marine et avec un numéro 30 déjà populaire parmi ses admirateurs, notamment ceux qui ont longtemps attendu devant l'hôtel des joueurs sur la place d'Erlon de Reims. Et bien la Pulga argentine a débuté sa nouvelle vie sportive, loin donc des Blaugrana. Une heure historique pour la Ligue 1 qui compte un joueur aux 6 ballons d'or dans son effectif désormais. Un match regardé en Argentine, le pays de Messi, là où il est né en tout cas, et puis suivi de près en Espagne par des spectateurs orphelins, des désormais, ceux de la Liga, en tout cas 6 700 000 personnes, selon la société Cosmos qui détient les droits de la Ligue 1, étaient hier soir devant leur téléviseur en Espagne. L'entraîneur, l'Argentin Mauricio Pochettino, semblait content au micro de notre envoyé spécial Thomas Saint-Léger.
Je l'ai senti très bien dès ses premières touches de balle. Il a apporté beaucoup de sérénité, de sécurité à l'équipe. C'est important même pour un joueur comme lui de bien débuter, de débuter par une victoire. Je suis content de lui, content de voir qu'il s'est bien intégré au groupe. Aujourd'hui, il nous a déjà bien aidé à conserver ce résultat.
Voilà, Mauricio Pochettino, super heureux donc.
Là, ça s'entendait là.
Hein,
ah ouais,
pas,
hein, gros joueur.
Il est au max, hein. Pour un Argentin, oui, il a trop vécu en Angleterre, je pense. Un moment historique en tout cas donc pour le PSG. Est-ce que c'est un bon spectacle pour la Ligue 1 Nicolas Villas. Est-ce que vous trouvez que la présence de Messi correspond au spectacle offert par la Ligue 1?
Après, enfin, tout dépend de quelle Ligue 1 on parle, mais que le PSG ait marché sur la Ligue 1 pendant des années et des années, c'est un fait. Mais Messi, il n'est pas là pour enflammer la Ligue 1, il est là pour gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Après qu'il apporte de la visibilité, ce qui a été le cas, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais les audiences ont battu des records pour des matchs français en Espagne, par exemple. Ça donne un vrai coup de projecteur, une vraie visibilité. Après, quand je vois, moi, par exemple, la réaction même de Reims, du service de communication, etc., autour de Léo Messi, c'est complètement dingue, irrationnel ou quoi, qu'un responsable de la com d'un club adversaire, alors même s'ils ne sont pas rivaux ni adversaires directs, viennent à en demander aux supporters de son club d'acclamer Léo Messi au moment où il va rentrer sur la pelouse, ça peut paraître complètement dingue dans d'autres pays, par exemple. Mais là, on rentre dans un autre débat qui est celui de la culture foot. Après, dire que c'est une bonne nouvelle d'avoir Léo Messi en Ligue 1, oui. Est-ce que Messi est là pour gagner la Ligue 1? Non, c'est pas ça, il n'est pas là pour ça. Mais c'est une super nouvelle pour le foot français. Mais
peut-être que le PSG est quand même là pour gagner le championnat qu'il n'a pas gagné l'année
bien
dernière.
Sûr. Après, ça, c'est un objectif minimum, j'ai envie de dire, pour le PSG. Quand vous avez, de toute façon,
L'année dernière, ce minimum n'a pas été rempli.
Oui, non, bien sûr. Sauf que là, vous avez en plus fait un recrutement 5 étoiles à tous les niveaux, en plus avec le roi Messi. Donc, évidemment, vous êtes obligé de remporter cette Ligue 1. Mais comme le dit Nico, Messi, il se dit pas, ah, je vais venir en Ligue 1, je pourrais porter l'hexagone à la fin de la saison. Lui, ce qu'il veut, c'est remporter la Ligue des Champions et montrer à tout le monde d'ailleurs qu'il peut gagner la Ligue des Champions avec un autre club que le Barça. Parce que inconsciemment, c'est aussi
le
ça.
Défi, c'est ça.
C'est aussi ça de pouvoir montrer qu'il peut le faire avec un autre club. Mais évidemment, le fait que Messi soit là, c'est un coup de projecteur dingue. On a évoqué l'Espagne et le fait que la presse anglaise parle de la Ligue 1, c'est bête ce que je suis en train de dire, mais que la presse anglaise en parle comme ça, c'est pas normal. C'est que d'autres championnats et que d'autres titres de presse dans d'autres pays puissent en parler comme ça, c'est grâce encore plus à l'arrivée de Messi.
Marc, est-ce que la fête hier était à la hauteur de Messi?
C'est-à-dire tout ce qui s'est passé, toute cette folie furieuse
où
quand
la réception,
le diffuseur
disons...
prend et qu'on nous montre Messi qui n'est pas là, qui est dans le vestiaire. Oui, ça me paraît un petit peu. Mais c'est surtout ce que dit Nicolas sur la culture football en France. On n'en a pas forcément. C'est là que c'est assez terrible. Alors, on a vu des images. Je rassure, plein de gens étaient choqués de voir Rajkovic, le gardien. C'est Rajkovic, le gardien
de Reims, ouais.
Mais en Espagne, il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi.
Non,
donc,
mais ça, c'est,
donc,
ça, c'est non, débat, mais, il est ridicule. Ouais.
Pour nous, oui, mais pour nous, ça fait bizarre. Alors, c'est vrai, quand on suit l'Espagne, on voit que c'est arrivé plusieurs fois. Mais là, c'est quand même assez violent. Il vient de prendre deux buts. Il a perdu 2-0. Il récupère vite son fils. Il fait un selfie. Alors, c'est joli.
C'était pas le but de Messi, c'est peut-être ça.
C'est joli, mais encore une fois. Et je ne sais pas si c'est à la hauteur. Je pense que il y a vraiment, on est en train de s'enflammer énormément autour de Messi. J'espère juste que Messi va marquer 40 ou 50 buts parce que si en fin de saison il met que 15 buts, on risque d'être déçu parce que là, on nous raconte, et c'est vrai, et à juste titre, plus de 750 matchs, plus de 650 buts, 35, bien sûr. Mais attention, si aujourd'hui, Messi.
C'est ça qu'on a applaudi hier soir, en tout cas.
Mais c'est obligé qu'on l'applaudit. Il est 6 ballons d'or. Mais si on pense que Messi aujourd'hui, grâce à Messi, ils vont gagner la Ligue des Champions, si ça avait été aussi facile de mettre autant d'argent et de grands joueurs, ça fait longtemps que certains clubs auraient déjà 3, 4, 5 Ligues des Champions. Et c'est pas le cas. Donc après, il va y avoir le terrain. Messi, il faut pas oublier. Si aujourd'hui, on me dit Messi, il vient Ligue des Champions. Ok, d'accord, il n'a pas gagné depuis 2015. Mes souvenirs sont bons avec Xavi, Iniesta, deux monuments. Depuis, c'est plus difficile pour lui. Et aujourd'hui, il y a quand même un objectif pour Messi, c'est être bon pour la Coupe du Monde qui arrive. Donc Paris va s'en servir, c'est très bien.
Mais lui, il va servir Paris aussi.
Quand t'es supporter de Reims, c'est que tu vois Messi débuter en Ligue 1 sur ta pelouse. Après, moi, l'enflammade qu'il y a autour, c'est discutable. On n'aime pas, chacun se fera son avis. Et surtout, chacun fait ce qu'il veut. En revanche, le supporter de Reims, il s'en fout que le PSG gagne la Ligue des Champions. Lui, son kiff, et ça, en revanche, c'est même pas tant lié finalement à la France, mais c'est plus qu'aujourd'hui, le football est très individualisé. Voilà, on raisonne en termes de statistiques et surtout de joueurs et de joueurs stars. Le supporter de Reims, il voit Messi, il l'a vu à la télé, il l'avait en poster, il l'a vu sur Internet
console,
tout le temps.
Sur la console, ouais.
Mais nous, c'est vrai qu'en tant qu'observateur, on va dire peut-être plus objectif avec plus de recul, on sait que l'objectif du PSG, c'est d'avoir la Ligue des Champions. Le supporter de Reims, il se dit, je vois Léo Messi sur ma pelouse, waouh, événement, et il applaudit, il trouve ça génial. Après, qu'on trouve que c'est trop ou pas, ça, c'est encore.
Mais c'est même pas le supporter lambda de Reims ou de Saint-Etienne ou de Bordeaux qui va croiser. C'est tout ce qu'il y a autour aujourd'hui que l'on met en avant par rapport
mais
à Messi.
On sait que de toute façon, il y a une orchestration clairement
médiatique. Mais tout à l'heure, on en parlera avec Cristiano Ronaldo. Mais déjà, on le voit et certains titres de presse anglaise l'évoquent, c'est que le marché marché noir autour des billets en Angleterre pour le premier match possible de Cristiano Ronaldo pour le United Newcastle le 11 septembre, ben les prix flambent parce que là encore, on ne veut pas rater la première de Cristiano Ronaldo, un peu comme là, les prix avaient été montés très haut parce qu'on ne voulait pas rater les premières minutes de Messi.
Thomas de Saint-Léger, notre envoyé spécial, a rencontré un supporter qui avait dépensé 250€ pour voir le match et il était heureux à la fin, comme quoi, hein. Même si, donc, on le disait, il n'est resté que, il n'est rentré minutes, que, voilà, à la 66e minute.
Alors, même pas un tir, mais il est nul en fait. Hein.
Que pensez-vous de cette réaction, de ce commentaire d'un confrère qui n'est absolument pas sportif, Jean-Michel Apathy, mais qui a dit l'entraîneur du PSG a une psychologie de poisson rouge, sortir Neymar au moment où Messi rentre, c'est tout simplement stupide. Quand on a les trois meilleurs joueurs du monde dans son équipe, on les aligne, on écrit l'histoire.
Oui, enfin, lui n'est pas entraîneur et il sait qu'il y a aussi une gestion d'équipe et une gestion de joueurs. Marc a été joueur par rapport à nous et il sait qu'un début de saison, surtout que Neymar, il a quelques kilos en trop, donc il faut le gérer un petit peu aussi. Et même si c'était Reims, même si c'était pas une intensité de dingue, il y a un moment donné une gestion de l'effectif et donc du physique des joueurs. Et Neymar, il devait sortir à un moment donné. Donc, enfin, que Jean-Michel Apathy parle d'histoire, j'entends, on peut l'entendre, mais à un moment donné, il y a une gestion des physiques et là, ça compte aussi.
Mm-hmm. Bon. Moi, je suis un peu étonné parce que c'est, moi, c'est un mec que je, enfin, un journaliste que j'apprécie beaucoup, qui fait souvent preuve d'intelligence et de recul.
Absolument.
Et là, franchement, c'est pas son en fait, pour le coup,
il connaît pas.
Non, mais justement, enfin, c'est-à-dire qu'il a zéro recul. Il se dit pas, il y a des matchs à venir, mm-hmm. que Pochettino doit faire tourner, qu'il y en a peut-être un qui
qu'il
en
a raté la préparation, qu'il voilà. arrive en retard.
Oui, c'est pas juste. Non, mais ça, c'est et voir ce qu'on leur vend aussi depuis le début. Moi, c'est-à-dire le trio. Hein.
J'aime pas les généralités, les clichés, etc. Mais si demain un journaliste sportif fait ne serait-ce qu'un tweet sur quelque chose de politique, on va lui dire c'est un sous-journaliste. Et eux, sous prétexte qu'ils font de la politique, ils peuvent juger et parler de tout et sans rien savoir finalement.
Mais c'est justement aussi parce que
Jean-Michel, je t'embrasse, je te kiffe quand même.
Le sujet était tombé un peu en dehors du sujet sportif,
mais
purement
beaucoup,
sportif,
beaucoup de,
durant
de
le week-end.
Ce matin, on parlait de Messi. Alors qu'il
beaucoup
ne
de politiciens
pas.
En parlent d'une façon globale.
Mais qui a assuré le spectacle sur la pelouse, le spectacle sportif? Eh bien, écoutons.
Hakimi pour Di Maria. Et les bons gauchers vers Mbappé. La tête de Kylian Mbappé. Il est encore là au PSG. Et il le montre. Et il le prouve. Et ça fait 1-0 pour les Parisiens. Achraf Hakimi face à Woodfess. Le centre au second poteau, comme c'est beau. Et les cadeaux, il s'est en profité. Kylian Mbappé, tout à l'heure c'était Di Maria, cette fois c'est Hakimi. Une tête, un coup de pied, 2-0 pour le PSG.
Et 1 et 2, et le prodige français a donc inscrit, bien avant la 66e minute d'ailleurs, un doublé, dont un but de la tête, ce qui est rare chez Kylian Mbappé. Au coup de sifflet final, ses camarades de jeu, et on va entendre Marco Verratti, eh bien, vanter, ou s'est été épaté, toujours et encore, par son talent.
On aime jouer avec les plus forts, Kylian aussi ce soir, il a montré que c'est un grand attaquant, on gagne 2-0, il fait un doublette, mais c'est pas aujourd'hui qu'on découvre Kylian, ça fait déjà beaucoup d'années qu'il fait beaucoup de brutes, des fois... On attend seulement qu'il rate un match pour tout lui tomber dessus, mais ça c'est parce que c'est un phénomène et tout le monde s'attend toujours beaucoup de lui, mais lui, nous on le connaît, on sait qu'est-ce qu'il peut donner et on est très content de lui.
Kylian qui
la
a déjà inscrit
la doublette.
3
non,
buts en 4 matchs, bah oui, mais il est italien.
Si. Alors...
vous dites comment en portugais?
J'en sais rien moi, bah au doublé.
Pas mal.
Non, bizarre, on pense mettre un doublé.
Alors, n'est-ce pas lui la véritable star du projet sportif de ce club, Marc Libra?
Il est dans le projet. Il fait partie du projet. C'est sûrement le
non, mais il fait partie
futurs.
Du projet. Mais est-ce que c'est pas lui? Je me souviens quand Neymar est arrivé, comme Neymar si fragile, si souvent blessé, et tout. On se disait, mais finalement, on parle tout le temps de Neymar. C'est Neymar qu'on met en avant et tout. Mais est-ce que sur le terrain et est-ce que le rendu sportif, c'est pas Kylian Mbappé, la vraie star, en tout cas sportivement parlant?
À l'heure actuelle, c'est Kylian Mbappé qui est la star de l'équipe. Après, il faut que Neymar revienne à son meilleur niveau. Puis après, il faut pas oublier qu'il a quand même des joueurs qui sont capables à 25-30 mètres de vous mettre le ballon. Vraiment, vous faites l'appel, on
non,
vous
non,
met.
Mais c'est un jeu d'équipe, je suis d'accord.
Donc c'est un jeu d'équipe. Oui, aujourd'hui, il est stratosphérique, mais ça on n'a pas de doute par rapport à ça. Mais s'il vient à partir, on ne sait pas, c'est parce que justement, il estime que Lyon, on le respecte pas assez. Donc on va voir, mais aujourd'hui c'est vrai que ça reste la référence pour moi. Et encore, je pense qu'il peut faire encore beaucoup 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 mieux, vraiment.
Salim,
pareil, c'est que moi je me réfère toujours à la conférence de presse de Nasser El Khelaifi avec Lionel Messi il y a quelques semaines lorsque Messi arrive. Et avec ce fameux message de Nasser Al-Khelaifi pour Mbappé aussi, hein, en lui disant qu'il va rester, hein, en quelque sorte.
Un peu le sermonnant, un peu.
Le sermonnant, absolument, mais en tout cas, en faisant. Vous parlez quand même de Mbappé pendant la conférence de presse de Messi. Je veux dire, par là, on rappelle toujours que Mbappé est quelqu'un de clé, même lors de la conférence de presse, de l'insister du plus grand joueur de l'histoire de ce sport. Ça vous signifie l'importance, encore une fois, de Mbappé dans le projet sportif parisien?
À cette heure, on ne sait toujours rien de Kylian Mbappé, mais partira pas du côté de l'Espagne. On se pose beaucoup la question. Écoutez.
Tic-tac. Tic-tac.
Voilà notre confrère devenu fameux, hein, de El Chiringuito, la chaîne, on peut dire, du Real Madrid, hein, parce que c'est un peu la voix de son maître. Il est là, il attend. Alors tout à l'heure, quand il a pris l'antenne, il restait 17 heures. Alors maintenant, ça tourne. Tout le monde attend, mais en fait, ce qu'on peut se dire peut-être, Nicolas, c'est que peut-être que très peu de gens savent à cette heure.
Mais je pense que même lui sait pas, en fait. Enfin, il n'y a pas d'accord, donc ça peut se faire au dernier moment, ça peut ne pas se faire. En plus, tout le monde n'est pas forcément d'accord et tire dans le même sens dans son entourage proche. C'est un dossier qui est quand même très, très, très complexe. En revanche, il y a une chose, même pour revenir à la question précédente, c'est Mbappé, en fait, finalement, il est en train de répondre à ce que lui-même a affirmé avant l'Euro, c'est-à-dire toutes les sorties médiatiques qu'il a eues. À ce moment-là, on ne s'imaginait pas que Ramos allait venir au PSG, ni Hakimi, ni Wijnaldum, encore moins Lionel Messi, puisque ça s'est fait très rapidement. Nasser Al-Khelaifi l'a rappelé encore. Il s'est un peu mis dedans tout seul, à savoir à réclamer des choses qu'il pensait que le PSG n'aurait jamais, à trouver des prétextes pour partir. Il a aussi beaucoup promis pour l'Euro, et finalement, il n'a pas été catastrophique loin de là, mais il n'a pas fait l'Euro que lui-même espérait. Et finalement, aujourd'hui, et quand on voit notamment des joueurs qu'on vantait comme étant des gendres habituels, je pense à Harry Kane par exemple, qui s'est pas entraîné pendant un moment, même Cristiano Ronaldo, hein, c'est pas tout clean la façon dont il a quitté la Juve. Bah lui, en fait, il dit aux autres, voilà, moi j'ai envie de partir, c'est vrai, mais voilà, je fais le taf en attendant. Donc moi je trouve que c'est très responsable de sa part, et ça démontre aussi une certaine force de caractère. Maintenant, où il ira, il partira, oui, maintenant ou dans un an, mais je ne suis pas convaincu que même dans son entourage, il sache ce qui va se passer dans les 16 prochaines heures, maintenant 15.
Ce qui est sûr, c'est que Mbappé, il ne donne pas l'impression d'aller au clash. Hein, et en tout cas, il n'y a pas de sortie médiatique.
Il y a même un petit jeu de séduction.
Le clash, il est là depuis longtemps, au final. Hein. Mais, avec Leonardo,
avec
ça fait longtemps.
Avec les dirigeants.
Oui,
mais par exemple, là, on a eu la sensation d'un petit jeu de séduction avec les supporters.
Le public, bien sûr, sur ce premier but, la joie qu'il a démontré, t'as l'impression qu'il avait marqué en Coupe du Monde, quoi.
Et devant le petit carré des supporters.
Effectivement. Donc, c'est vrai qu'au final, Mbappé, alors, certains, peut-être, qui voient ça de loin, se disent « Ah, mais il a envie de partir, de quitter ce projet. Comment fait-il pour quitter ce projet alors qu'il y a Messi et Neymar ?» Mais après, à un moment donné, pardon, mais si c'est son rêve d'aller au Real, c'est son rêve depuis toujours d'aller au Real, mais laissez-le partir. Bon, après,
c'est son plan de carrière.
Oui, c'est son plan de carrière. Après, bon, il y a peut-être un accord entre le PSG et le Real,
ouais,
à obtenir. Ça, c'est encore autre chose.
Oui. Marc ?
Non, moi je reste persuadé que je ne comprends toujours pas pourquoi il veut partir. Quand on parle au début d'émission de la Ligue des Champions, je pense qu'aujourd'hui, le PSG est un peu mieux armé pour aller gagner la Ligue des Champions que le Real Madrid. Hein. Alors on ne parle pas en tant que palmarès, on est bien d'accord, il n'y a pas photo. Mais sur le papier aujourd'hui, j'ai plus de conviction du côté du PSG que du côté du Real Madrid. Ils ont perdu des joueurs importants, il reste aujourd'hui Benzema. Et on nous dit, si ce qu'on entend est vrai, oui, le projet, moi je veux le projet numéro 1. Mais attention, à Madrid, il y a un joueur qui s'appelle Benzema, qui est le numéro 1.
Et qui est une institution qui s'appelle le Real. Et...
Oui, mais il y en a un qui est parti qui s'appelle Ramos. Par contre, mais non, le bébé, c'est Benzema qui a. Donc, si tu veux arriver et être la future star, et puis, il aime pas qu'on le titille, vous le savez bien, dans la presse, il aime pas qu'on aille le chercher. Mais quand il va arriver, si un ou deux.
Chiringuito, il va
pas. Il y a entre les deux quotidiens, ne serait-ce que national.
Attention, ça va changer parce que nous, dès qu'il y a un problème, il se plaint. Ouais. Ah, mais j'aime pas qu'on me dise ça, j'ai raté un péno, vous avez pas été gentil avec moi. Attention.
Le leader et même le capitaine, on peut dire Benzema, ok, mais Benzema et Mbappé s'apprécient beaucoup. On l'a vu pendant l'Euro, pour le coup, ça jouait bien ensemble et tout. Ça, à la limite, j'ai pas.
Après, il faut gagner des matchs et il faut que ça évolue ensemble et que ça joue.
T'as bien compris. Alors, ce qu'il avait dit justement Valoro quand il a dit moi je veux que Nasser Al-Khelaifi monte une équipe compétitive pour gagner la Champions. Mais c'est ce que je te dis. Alors, c'est certainement vrai, mais il y a une part finalement de prétexte pour l'inciter à partir. Lui, l'objectif, déjà le Real ça a toujours été son rêve depuis gamin, mais l'objectif, c'est pas le projet du club. Enfin si, t'es au Real Madrid, le Real Madrid est un projet à lui seul déjà. C'est l'aboutissement d'un truc. Mais ce qu'il veut, c'est ne pas être le numéro 3 dans la pyramide. Et tu sais que
il sera pas le premier pour
moi. Non mais le meilleur.
Ah oui, parce que regardez, oui, mais hier soir, on parle de Messi. Alors finalement, c'est lui qui a fait le.
Oui, mais c'est pas ça. Mais lui s'en fout de ça. Je veux dire, l'organigramme d'un vestiaire, Marc, tu le sais mieux que nous. C'est pas, c'est le salaire. Il va au Real Madrid, il va pas être numéro 3. La hiérarchie d'un vestiaire, elle se fait à travers le salaire. Et aujourd'hui, tout se sait. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on parle d'un joueur, on parle de son salaire, des années de contrat, du prix. Attends, pour que tu vois, hein, Cristiano Ronaldo avait une clause dans son contrat qui stipulait que, en gros, il devait être le joueur le. Non, je crois que c'est De Bruyne. Il doit être le salaire le plus élevé du vestiaire de Manchester City.
Ce qui est le cas, en tout cas.
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Messi est pas parti à City, notamment, puisque ça voulait dire qu'il devait augmenter De Bruyne derrière. Aujourd'hui, t'as des clauses qui prévoient ça, au fait. Ronaldo, il a toujours été hyper, obsédé par le prix de son transfert, parce qu'il voulait être le joueur le plus cher de son vestiaire. Et quand Bale est arrivé, bah, ça l'a un peu contrarié au Real. C'est, aujourd'hui, les mecs aussi vivent le foot comme ça, les joueurs eux-mêmes.
Bon, en tout cas, dans la Ligue 1, sportive, il n'y a pas que le PSG.
Ah.
Hein, n'est-ce pas?
Parlons de football.
Il y a
football,
aussi,
il y a aussi une autre équipe.
Comment? Non, c'est contré! C'est pas fini! Avec Guendouzi, la frappe! Matteo Guendouzi!
Ça va être récupéré par Cengiz Under. Allez, Cengiz! Cengiz sur le pied gauche. Under la frappe! Wow!
Un stade Vélodrome en ébullition pour eh bien encourager les joueurs, mais aussi apprécier le spectacle que leur offre cette équipe emmenée par Jorge Sampaoli, une équipe offensive et qui gagne. Alors là, c'était 3-1 face aux Verts de Saint-Etienne. Vous plaît-elle cette équipe phocéenne, Marc Lebras?
C'est très intéressant. Très bonne question. Non, mais plus sérieusement.
Jean-Michel Apathy. Ouais.
Plus sérieusement, on va penser que je suis un spectateur lambda que j'ai pris avec ma femme et mes enfants. Je vais au Vélodrome samedi soir. Mais je m'éclate.
Ah, c'est magnifique. Des bouteilles, quoi.
Non, c'est magnifique. Tu prends ton pied, tu peux voir 5, 6, 7 buts. Et après, mon rôle de consultant ou ancien joueur ou chroniqueur, je me dis, on parle de Guendouzi, ouais, c'est très bien, mais il joue où Guendouzi? Quel est son poste? Gerson, il joue quel poste? Luan Perez, il me fait peur. Donc là, c'est le côté plus précis. Mais cette équipe-là, je pense qu'il n'a pas de certitude aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est fun, c'est très bien. On a vu que pendant 30 minutes, ça déroule. Et puis après, il y a eu un coup de moins bien. Et là, d'un coup, ben, dès qu'on n'est plus sur un pressing tout terrain, qu'on lâche un mètre ou deux mètres, eh ben, des joueurs de Stéphanois qui sont quand même assez bons avec leurs pieds, se créent des occasions. Mandanda fait les arrêts qu'il faut. Donc, ils sont toujours à la limite de se dire, ouais, c'est fun. Mais par contre, et c'est depuis le début de la saison, on peut se dire, c'est la même chose. Oui, ils ont gagné comme à Montpellier. À Montpellier, rappelez-vous, il y a le 3-0, il est là, et puis d'un coup, ça fait 3-2 pour l'OM. Ça part dans tous les sens. Donc, c'est un petit peu foufou. Mais à un moment donné, il va falloir un petit peu se caler et trouver quand même un vrai neuf. Parce que jouer sans neuf avec un Payet qui se balade derrière, devant, enfin, on sait pas où il est. C'est
alors,
peut-être pas la règle
du
football.
Le neuf, pour l'instant, il est blessé, hein, je crois.
Oui, Milik est toujours blessé.
Ouais. Milik, qui est l'ancien Napolitain, mais bon. C'est vrai que c'est l'impression que donne Sampaoli, en fait, d'être toujours au bord du gouffre.
Le truc, c'est les fameuses similitudes que l'on évoque depuis des années entre Sampaoli et Bielsa. Uh-huh. Le fameux jeu tout fou, où ça part, entre guillemets, dans tous les sens, où il y a des déséquilibres qui sont assumés, où ça va défendre à 2, voire à 3, où ça va attaquer à 5. C'est assumé. Donc, vous allez vous procurer des occasions et c'est assumé que vous allez en concéder. C'est assumé. Donc, c'est top quand vous êtes spectateur. Quand vous êtes spectateur neutre, c'est top.
Ouais, c'est
là, vous prenez un pied terrible. Quand vous êtes spectateur marseillais, vous prenez un pied terrible et en même temps vous avez peur parce que vous dites le moindre compte ce week-end stéphanois. Ils vont avoir une occasion. Est-ce que Mandanda va faire l'arrêt? Donc c'est ça qui est agaçant, c'est que de se dire là en ce début de saison ça marche parce qu'au final en termes de vivacité les joueurs sont prêts, sont frais, etc. Reposer la question en novembre, en décembre,
avec
voire même
en deuxième partie
de saison, là ça sera peut-être autre chose.
En fait, c'est vrai que Marc l'a dit, mais ils sont lancés, etc. Il y aura la Coupe d'Europe à venir qui sera à suivre sur RMC Sport, bien entendu, avec Salim Bangali à la présentation et avec Marc Lebras aux commentaires.
Ça, c'est, on a invité la team.
Un jingle blue, quoi. Et non, mais il y a ça. Et puis autre chose, c'est au final, Marc disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de certitude autour de cette équipe, mais c'est surtout que c'est des joueurs qui ont jamais été réguliers, les joueurs qui brillent avec l'OM en ce moment. Guendouzi, il n'a jamais fait une saison vraiment régulière. Under, on n'en parle même pas. Alors c'est peut-être certes, il sort d'un bel euro avec la Turquie, mais il a quasiment pas joué avec Leicester où il était.
Et
tous les meilleurs joueurs de l'OM aujourd'hui sont des joueurs à la relance ou des joueurs qui se lancent tout simplement. Donc il y a cette incertitude, et même d'une façon générale, parce que on a souvent tendance à dire de façon un peu caricaturale ou cliché que les équipes ressemblent à leur entraîneur, mais Sampaoli, lui, c'est pas la stabilité le mot qui lui ressemble le plus.
Absolument.
C'est un révolté, c'est un révolutionnaire. Il l'a toujours dit, contrairement d'ailleurs à un Bielsa qui est d'une famille très aisée et c'est qui vrai. Vit ça de façon professorale, c'est vraiment le mot. Sampaoli, ça part un peu dans tous les sens. Mmh. C'est parfois un peu irrationnel, etc. Et finalement, ça colle bien à l'OM. Tant que ça fonctionne, ça va. Le problème, c'est que au moment où ça ira moins bien, on va voir comment cette révolte et cette folie va répondre face aux critiques, notamment.
Comment sera-t-elle canalisée et surtout comment sera-t-elle organisée? Quand même, dans cet effectif, Marc. Alors, évidemment, on a Dimitri Payet, on est tous curieux de voir s'il sera constant parce que on connaît ces moments de, ces éclairs de génie, on va dire. Ouais. Mm-hmm. Mais aussi, on connaît les moments où ça va moins bien. Il y a De La Fuente, qui vient d'arriver, qui est plutôt pas mal. Il y a Under. Il y a aussi Gerson, le Brésilien, qui a l'air d'être plutôt pas mal, l'ancien de Flamengo.
Oui, mais encore une fois, Gerson, est-ce qu'on
mais
le voit...
Mais c'est peut-être le début de saison, c'est ça ?
Non.
On n'a pas encore bien vu.
Est-ce que pour l'instant, on arrive à les voir à leur poste ?
Est-ce qu'ils ont un poste ?
Ils ont un poste, mais ils ont le poste. Par contre, ils sont pas à leur poste. La plupart des joueurs ne sont pas à leur poste. Mmh. Guendouzi qui se projette très vite, que sur une relance du gardien, il y a 5 joueurs qui sont déjà dépassés. Mais quand on va... L'Olympique de Marseille va croiser des équipes qui jouent très très bien et très très vite de contre. Mais ça va faire très mal parce que vous avez des fois deux, Luan Perez tout seul, Alvaro qui va se jeter pour tacler. Parce que... ça part.
Ouais, mais ils vont peut-être pas comme ça, Marc. Peut-être qu'ils vont s'adapter aussi.
Je pense vraiment que avec ce coach-là, il y a pas d'adaptation possible. Quand tu vas croiser Paris, tu vas être cette furie, cette folie. Alors oui, si tu es au Vélodrome, tu sais qu'il y aura une ambiance parce que le public a été encore une fois, ça a été très 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 impressionnant. Certains ont été alors pas choqués, mais ils ont dit putain, on s'attendait pas à ça. Mais ça c'est le Marseille qu'on connaît avec les supporters. Mais au niveau du jeu, quel est le rôle Luan Perez? Il sort, pour moi il est très limite parce que des fois il sort, il est pas sûr d'avoir le ballon.
Parce que
Mandanda qui te sort, parce qu'autrement tu prends encore 2 ou 3 buts.
En fait, qu'il y ait des 1 contre 1 derrière très réguliers avec Luan Perez face à un Stéphanois, avec Alvaro face à un Stéphanois ou Saliba, des 1 contre 1 une fois, deux fois, OK, mais tellement souvent, un mandé contre Saint-Étienne ça passe, mais dès que vous allez affronter une équipe du top 7, top 8, c'est mort. Mmh.
Bon, on verra quand même comment avance cette équipe de l'OM ces prochaines semaines. Il y a des équipes qui avaient très mal commencé cette saison. On pense à l'Olympique Lyonnais, on pense à Monaco et à Lille. Les 3 équipes ont gagné au cours du week-end. Première victoire, 1-0 à Nantes pour l'OL, 2-1 à 3 pour Monaco. Et puis Lille, enfin, on se souvient de l'humiliation face à Nice dans son propre stade. Cette fois, ils ont gagné 2-1 face à Montpellier. Est-ce que pour vous, après des incertitudes de début de saison, ces équipes vous paraissent lancées, Marc ?
Absolument pas. La seule certitude que j'ai, c'est que Monaco, on a pu voir cette semaine
en Ligue des Champions,
en barrage de Ligue des Champions, qu'ils sont capables de produire du jeu et de jouer, d'être très bons.
Et d'élever très haut
leur niveau. Depuis le début de saison, en plus. Hein.
Oui, mais le début de saison, pour moi, ils l'ont hypothéqué en se disant, c'est pas grave, c'est le petit, après on va prendre Lens, après c'est Nantes, faut pas s'inquiéter, et puis Nantes, tu perds, après Lorient, tu perds là-bas, et tu te fais rouler à la maison. T'as hypothéqué tes chances, t'as mis des joueurs sur le côté en disant, les 3 premiers matchs, c'est pas grave, en plus, je crois que c'est le Spartak, le premier match, ça gagne, et puis là, on a vu qu'ils doivent aller faire un résultat, ils sont capables. Si elle a réussi de Ben Yedder et Voland, peut-être qu'ils gagnent 4 ou 5 à 0, et on parle pas pareil. Lyon et Lille, je suis beaucoup plus inquiet. Lyon, c'est un grand Lopez, peut-être qu'ils perdent 2-1 ou 3-1, parce que Lopez a été extraordinaire. Ça me fait penser qu'on y a mis Onana dans les pattes pour essayer
de le stimuler.
Ils l'ont bien stimulé, là. Pour lui que ça dure, non, mais c'est vrai, mais je comprenais pas non plus.
Ça l'énerve plus que ça le stimule. Après, c'est une forme de stimulation.
Pour avoir lu pas mal de choses, j'imagine bien que ça a dû plus le vexer, le piquer qu'autre chose. Mais si ça le pique, moi, tu me piquais, j'avançais, donc c'est très bien pour lui. Mais cette équipe de l'OL, alors, aucune incertitude, on sait pas ce qui va se passer devant. Il y a des joueurs qui, pour moi, encore ne sont pas à leur poste. J'ai rien contre Da Silva, mais Da Silva qui joue derrière.
Oui, mais Da Silva,
c'est le quatrième, on est d'accord. Mais pourquoi t'arrives au quatrième? Pourquoi tu fais signer Marcelo en mars? Pourquoi Juninho est toujours là? Il y a plein d'incohérences. Et côté Lillois, avec Gourvennec, c'est pareil, j'attends de voir autre chose. Et puis peut-être que, mais voilà, donc Monaco, oui. Et pour les autres, j'ai encore du mal.
Nicolas?
Monaco, c'est une équipe qui a du contenu depuis le début de saison. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était de la réussite.
Et surtout en fin de saison l'année dernière.
Ben Yedder n'avait jamais passé autant de temps, n'avait jamais eu un début de saison aussi catastrophique, du moins sans marquer. Folland, alors, contre le Shakhtar, il n'était pas là. C'est terrible parce que Monaco doit passer sur les 2 matchs en plus.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'en termes de contenu, Monaco, contrairement aux 2 autres, c'est pas du tout la même. Et Lyon gagne ce week-end, c'est vrai. Mais tu l'as dit, quand un gardien brillotant sur un match, c'est rarement bon signe. Mais en termes de contenu, il y a plein de choses qui vont pas. On est le combien là aujourd'hui?
Le 30.
Voilà, il reste 24 heures avant la fermeture du mercato. ils leur font un renfort à toutes les lignes quasiment. C'est-à-dire à tous les, ils leur
partout,
font
partout.
Alors, limite le seul poste où ils en avaient pas besoin, c'est le seul qu'ils ont renforcé et où ils se sont mis dedans, c'est le poste de gardien. C'est-à-dire ils font la fameuse théorie du oui pour, comme tu disais, stimuler les gardiens, faut en mettre un deuxième. Souvent ça a l'effet totalement inverse. Il leur faut au minimum un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant, parce que enfin Dembélé est resté d'accord, mais presque c'est quasiment un choix pour défaut et pour le club et pour lui.
Salim, Lille, le champion sortant. Alors on connaît hein, des départs et puis surtout un changement d'entraîneur. Est-ce que Lille va mieux?
Dans le match, c'était quand même pas transcendant non plus. Hein. Surtout, la seule note positive, c'est dans ce match-là, c'est d'avoir concédé le but très vite, en plus après l'ouverture du score, et malgré tout d'avoir eu la capacité de réagir pour marquer le deuxième but. Donc, j'ai envie de dire, ça c'est quand même la note positive dans cette partie par rapport au début de saison aussi. Même s'il y avait eu une note positive face à Metz, hein. Ils avaient été menés 3-1, ils avaient 3-3. Réussi à revenir à 3-3 dans les dernières secondes. Donc ça, c'est la chose positive. Après, là, j'ai envie de dire, la trêve, elle n'arrive pas forcément au bon moment parce que vous gagnez, vous reprenez le goût de la victoire, vous êtes lancé potentiellement et bim, c'est coupé avec la trêve en espérant que des joueurs lillois ne se blessent pas pendant celle-ci.
L'OL qui devra aussi faire, notons-le, sans Maxwell Cornet, l'international ivoirien.
Gros choix sportif, hein, il a fait. Hein. Non, je déconne. Hein,
Mais je sais, j'ai compris. Il est parti vers Burnley, rire, n'est-ce pas? Le tourment des Citizens. C'était le tourment des Citizens quand même, ce joueur.
C'est vrai que Pep Guardiola, je pense qu'il devait avoir peur de Maxwell Cornet. Oui, non, mais c'est pas une blague. Pourquoi on n'est pas ironique en disant ça? On n'est pas ironique en disant cela parce que Maxwell Cornet, il avait été à chaque fois monstrueux.
Exactement.
Tu veux dire que Cornet lui a mis les boules?
Oh, c'est bon ça.
En tout cas, Maxwell Cornet, 6 ans et demi à l'OL.
C'est trop froid.
250 matchs joués. À au moins 4 postes différents, dit-on, mais surtout 50 buts, dont les fameux 4 contre Manchester City. Nous passons justement, hein, on passe de Lyon à Burnley et donc en Angleterre.
Encore Bruno Fernandes. Oh, Pogba, il s'est trompé. Ça reste dans les pieds de United avec Raphaël Varane. Pas de faute, pas de coup de sifflet. Greenwood en percussion, mais c'est Greenwood.
Oh, le but. Mason Greenwood finally penetrates for Manchester United.
Dans la douleur, 3 points précieux pour Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer.
Un seul but suffit pour donner le sourire au mancunien. Mason Greenwood a libéré une équipe un peu empruntée, peut-être face à Wolverhampton,
c'est moins compliqué. Beaucoup même, ouais.
Hein. Mais sans doute que les esprits étaient ailleurs, chez les joueurs comme chez les supporters, pressés de célébrer leur héros. Ils ont déjà chanté pour lui, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, leur nouvelle recrue. On en a parlé vendredi, bien sûr. Et il rentre à la maison. Manchester United a annoncé le transfert de CR7 en provenance donc de la Juventus où il a, disons, fini par s'ennuyer. Est-ce que c'est un gros coup pour Manchester United ou pour Cristiano, Nicolas Villas?
Les deux, mais... c'est surtout ce qui est dingue, c'est un peu comme Messi au PSG, ça se fait très vite. Mais là, ce qui est encore plus dingue avec Ronaldo, c'est que ça se fait vite et que ça change toutes les 24 heures de destination. PSG, peut-être. City, c'est bon, c'est fait. Et puis, quelques
mais
heures
c'est
après, c'est United.
Ça aussi,
disons que Mendes a fait un billard à 3 bandes. C'est le spécialiste pour ça. C'est-à-dire d'aller voir
un club. C'est son agent, je précise à nos
Mendes.
Auditeurs.
Et il va voir un club, il va voir le rival, donc là en l'occurrence géopolitique, je vais voir les Qataris, je vais voir les Émiratis, il fait monter le truc, il se rend compte que les Émiratis sont peut-être plus intéressés, et puis après il va voir le rival du club qui appartient aux Émiratis, en l'occurrence United, donc face à City, et il fait monter les enchères comme ça. Après, bien sûr que c'est un coup énorme. En plus, alors c'est rigolo parce qu'on avait fait la maman de Cristiano il y a 4-5 ans en interview, elle était venue à Paris pour faire la promo de sa biographie. Et à l'époque, il était annoncé au PSG déjà. On lui a posé la question, est-ce que vous aimeriez qu'il vienne? Il a dit, moi, j'ai rien contre, mais perso, moi, j'aimerais bien qu'il finisse à Manchester. Et en fait, c'est rigolo de se dire, je dis pas que c'est sa mère qui l'a convaincu, mais il y a un profond attachement que sa mère dit ça il y a 4-5 ans. C'est dire à quel point il était attaché à cette ville, à ce club surtout. Et donc, c'est, c'est merveilleux de le voir là-bas, même s'il faut pas être dupe. Il serait peut-être allé chez le rival, hein, on sait pas.
Il y a l'aspect financier.
Il est attaché et on sait que quelqu'un a joué un grand rôle, Salim, c'est Ferguson.
Justement, quelqu'un, j'ai même envie de dire plusieurs personnes. Ferguson, parce que Sir Alex Ferguson, effectivement, a échangé
un
avec
peu son
lui
papa pour spirituel.
C'est
hein.
ça, hein, c'est vraiment lui qui lui a permis de grandir à United. Donc Sir Alex Ferguson l'a appelé, Rio Ferdinand l'a appelé. Mmh. Il y a eu des échanges de
Bruno
messages.
Fernandez. Avec...
Comment?
Bruno Fernandez.
Bruno Fernandez, oui. D'ailleurs, lui-même qui sur sélection. Twitter s'est surnommé Agent Bruno, Agent Bruno. également, il y a eu Darren Fletcher qui l'a appelé son ancien coéquipier. Patrice Evra qui a échangé avec lui par message. Patrice Evra qui a même montré une capture d'écran d'échange entre lui et Cristiano Ronaldo.
Avait-il besoin de le convaincre de revenir à United?
Mais semble-t-il, dans le sens où City était quand même bien placé financièrement. Jorge Mendes y trouvait son compte.
Pep Guardiola, on imagine, c'était peut-être pas super
enthousiaste. Non mais c'est surtout qu'il a quand même pris une sacrée rafale, c'est-à-dire en l'espace de pendant 12 heures, au moment où tout le monde annonçait que c'était fait, Rooney l'a dézingué, Solskjaer a balancé une petite pique quand même,
ouais,
en disant quand on a joué à United, on va pas jouer à Manchester City. Le lendemain, il lui repasse la pommade parce qu'il a changé d'avis, je sais pas, mais ils ont senti quand même qu'il y avait un coup à faire. Mais c'est là où je pense que les négos ont été bien menés de la part de son agent, c'est que à mon avis, il avait vraiment envie de mettre Ronaldo à United pour plein de raisons. Le marketing, l'image chez Ronaldo, Ronaldo c'est une marque. Mm-hmm. Retourner en Angleterre, habiter à Manchester, même si les supporters anglais n'ont pas l'habitude de taguer, d'être violents avec les autres joueurs, mais en termes d'image, ça aurait été un sacré coup pour lui quand même.
Mais d'aller là, jouer en face, peut-être pas trop. Voilà. En tout cas, ben, vous parliez de Solskjaer, on va l'écouter parce que c'est son nouvel entraîneur, mais c'est aussi son ancien coéquipier.
We need to get all the paperwork done, which I'm not.
On doit régler la paperasse et on fera l'annonce de sa date d'arrivée. Avant cela, il va jouer en sélection au Portugal. Son dernier match, ce sera le mardi 7 septembre. Il rentrera à Manchester avec Bruno Fernandes et j'espère pouvoir le faire jouer le plus rapidement possible. Évidemment qu'on ne le fait pas venir pour être sur le banc, clairement pas. C'est sûr qu'il va faire de nous une équipe plus forte.
Marc Libra, c'est sûr qu'il n'est pas venu pour cirer le banc, hein, Cristiano
non.
Ronaldo. Il prépare dans sa tête sa 5e Coupe du Monde, celle qui aura lieu au Qatar, et il veut rester compétitif. D'ailleurs, il est parti pour les éliminatoires comme les grands internationaux. Mais est-ce que il y a de la place pour vous? Est-ce que ça va être un casse-tête un peu pour l'entraîneur? Parce qu'on en parlait dès vendredi, il y a quand même beaucoup de monde dans le secteur offensif. Mais à Manchester.
Nicolas l'a très bien dit, c'est une marque. Donc quand on prend une telle marque... Et en plus d'être un très grand joueur, parce que les 25 buts, lui aussi, il est capable
de... Mais
la
Juve, elle a pris cette marque-là.
Oui, elle l'a pris, mais il n'avait peut-être pas le même âge. Là, aujourd'hui, il rentre à la maison et il y a toute l'histoire qui va avec, que l'on nous raconte déjà. Et puis l'Angleterre, en termes de football, oui. On est quand même un temps au-dessus de puissance au niveau du championnat de Première Ligue que l'Italie, sans faire offense à l'Italie. Mais c'est vrai que là, quand on voit ce... Enfin, il va être obligé de jouer, quoi qu'il arrive.
Moi, je suis pas sûr de ça, moi.
Mais je pense à un moment donné qu'il va falloir qu'il fasse un choix parce qu'on sait qu'il se prépare. Il a quoi, 36 ans maintenant?
Il
a 37
le 5 février.
Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il fasse des choix de pouvoir gérer. Parce que la semaine dernière, on en parlait avec la Juve, notre consultant italien, où on disait, je vous ai dit, il est sur le banc, il va pas rester longtemps parce qu'il supporte pas ce genre de choses. Lui, il vient pas pour faire semblant. Alors après, je pense qu'il y a une gestion toute la semaine à avoir avec un groupe. Mais moi, qui fasse ce genre de gestion, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, tous les week-ends, marque 2 ou 3 buts, et fais-moi gagner. Parce que là, on va en mettre sur le côté. Il y en a plein qui vont se retrouver assis dans la tribune. Et assis tout en haut qui ne joueront plus, vraiment. Je pense à Martial, je pense, enfin même quand Rashford. Donc attention à ça, c'est bien beau qu'il joue, mais il va falloir que les résultats soient là rapidement pour lui.
Nicolas ?
Mais en fait, cette histoire sur le bon pas, ça c'est une prise de conscience qu'il a eue à l'époque de Zidane au Real, qui a été le premier vraiment qui lui a fait prendre conscience qu'il fallait que, justement,
mesurer l'effort.
Il ait lui-même conscience qu'il est plutôt jeune. Il avait même fait une interview à l'époque, Ronaldo, en disant j'ai plus 20 ans, je me rends bien compte, ma tête veut, mais mon corps me fait comprendre parfois que j'ai plus 20 ans. Avec Zidane, il se mettait plus ou moins d'accord pour qu'il tourne. Avec Ancelotti, c'était le cas aussi. À la Juve, avec Pirlo, ça avait été le cas. En fait, Allegri l'a quelque part dans le collimateur. Suffit de voir les déclats qu'il a eu en annonçant finalement son départ alors qu'il n'était pas encore officiel. On sent qu'il était... et puis même, il le faisait moins jouer. Là où tu as raison, c'est... En fait, Ronaldo, il faut que... C'est toi qui as envie de le mettre sur le banc parce que t'es son entraîneur, mais c'est à toi de lui faire comprendre que c'est lui qui doit décider qui doit être sur le banc. tu vois, c'est toute une psychologie qu'il faut avoir parce que c'est une grosse star, mais lui-même a conscience de ça déjà. Après, oui, qu'il y ait une plus-value, mais Neville disait un truc qui était plutôt intéressant et certainement vrai. Lui, il a jamais fait de Manchester United un favori pour la Première Ligue cette saison. Ronaldo sera un argument de plus, mais c'est pas pour autant, comme il dit, qu'il miserait sa maison là-dessus. Et je pense qu'il a raison.
Salim, sur Cristiano à Manchester United, il y a une place logique qui l'attend.
Oui, ben pour moi, vu son utilisation, on l'a observé un petit peu avec la rédaction de Ramsey Sport, on a observé son utilisation sur les dernières saisons pour le coup. en observant malgré tout que la saison dernière il avait été plus utilisé dans l'axe, mais quand même pas mal aussi à gauche hein, pour le coup. Après, le jeu italien est peut-être pas celui anglais, en tout cas c'est pas le même. Aujourd'hui, et c'est là où la gestion de Solskjaer va aussi être importante, imaginez vous mettez Ronaldo en pointe, à juste titre on va dire. Vous mettez Sancho, vous êtes obligé de le mettre aussi, vous l'avez acheté 85 millions. Donc vous allez le mettre à droite et Rashford à gauche. Imaginons. Rashford quand il va revenir, il est encore blessé pour un mois et demi, deux mois. Juste derrière, vous allez mettre par exemple à Pogba et à Bruno Fernandes. Possible, c'est très offensif hein, ce que je propose, avec le seul McTominay qui serait là pour défendre, en tout cas qui serait un vrai milieu défensif. Dans ce cas-là, donc Martial, effectivement, il est totalement à chaise, j'ai envie de dire. Cavani, bon, en même temps, Cavani, il savait qu'il était là plus dans la rotation qu'en étant un titulaire indiscutable.
Enfin, attends, juste parenthèse, je me souviens, on en parlait l'autre jour, on avait fait un débat sur l'APL. Cavani, t'as fait des pieds et des mains pour le garder.
Ouais. C'est ça.
C'est-à-dire que le mec voulait pas rester, tu lui as offert un salaire mirobolant, tu lui as dit. On compte sur toi, t'as fait ta saison.
Mais il a pas fait tous les matchs. Qu'il a été bon, en plus.
Bah oui. Il faisait pas tous les matchs parce qu'il était blessé. Va expliquer à Cavani. Non, alors, c'est quoi ton numéro déjà? C'est pour Bibi.
C'est ça.
Et c'est ta place. Bah, c'est pour Bibi aussi. Donc, au final, pas la Peñarol.
La gestion encore avec
Greenwood. Boca Juniors.
Avec la gestion.
C'est pareil, c'est au Mexique.
La gestion de Greenwood aussi, qui est un élément clé, en tout cas, qui est un jeune vraiment qui performe avec cette équipe de United. Là aussi, Solskjaer, il va avoir un vrai casse-tête. Alors, c'est mieux d'avoir ce genre de casse-tête, hein. Mais pour le coup, la gestion des gens sur le banc. Et Nicolas dit juste numéro 7 pour le préciser, Cavani actuellement à numéro 7, Cavani est a priori d'accord pour le céder à Cristiano Ronaldo. United doit faire une demande à la Première Ligue, demande a priori
parce
qui a été faite.
La première journée a été jouée, c'est ça.
C'est ça. Mmh. Mais pour le coup, il a joué avec hier en l'occurrence, et il faut que la Première Ligue soit d'accord d'accepter la dérogation pour qu'il puisse changer de numéro.
Les autres mancuniens, ceux qui ont peut-être donc rêvé d'avoir Cristiano.
Je voulais dire quelque chose d'important, Annie.
Pardon, allez-y.
Non, mais c'est...
On dirait une demande en mariage, là.
Presque.
Sors de ce fort, vraiment.
Allons-y.
Allez, on sort.
Non, mais c'est juste que par rapport à ce coach-là, je ne sais pas comment ça va être géré. Parce qu'il y a un écart abyssal entre Solskjaer, qui est pour moi un entraîneur, c'est un bon entraîneur, mais qui n'a pas l'aura. Quand il va falloir aller dire des choses très importantes à Ronaldo, à mon avis, à un moment donné.
Ils ont joué ensemble, ça peut peut-être.
Annie, moi, j'ai joué avec des très grands joueurs. Oui. Je me mets à la place si je les croise aujourd'hui, que je suis leur coach et que je dois leur dire des choses. N'oublions pas que Ronaldo, il est stratosphérique, que Solskjaer, c'était le remplaçant de Luc, le super sub. Donc attention dans le discours, faire passer des messages, et ça peut se voir au niveau du groupe, voilà.
Alors les autres manquiniens qui n'ont pas eu Cristiano Ronaldo dans leur rang, qui portent la couleur Sky Blue, n'est-ce pas, ont eux écrasé les Gunners dans leur grand stade.
5-0 et troisième Manita de suite, la première depuis octobre 2017. Pep Guardiola a été exigeant jusqu'au bout. 5-0, c'est la troisième fois de suite à l'Etihad. La suite pour Mikel Arteta, elle se compte sur les doigts d'une main.
Et voilà la machine Manchester City, sans doute déjà lancée, en tout cas un 5-0, une vraie gifle. En face, Arsenal dans la spirale infernale. D'abord, ils sont derniers du classement à ce jour, mais surtout 3 défaites en 3 jours, 0 points et surtout 0 but, alors qu'ils en ont encaissé 9. Pierre-Emerick Aubameyang, qui était capitaine hier, a un peu sonné le tocsin.
Against a team against City. You have to take risk and
dans ce genre de match, nous devons jouer avec courage. Il faut prendre des risques. Nous ne l'avons pas fait. Ce n'est pas assez. Tout le monde a besoin de hausser son niveau. On doit se regarder dans la glace, en sortir en équipe et en restant soudé. C'est la seule manière d'aller de l'avant. Je pense que nous devons avoir une discussion entre joueurs. C'est important parce que nous sommes Arsenal et nous avons besoin de fierté. On doit parler, se dire la vérité, être honnête entre nous.
Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine d'Arsenal. Salim, c'est le fond du trou pour Arsenal, où ils sont prêts à donner le petit coup pour remonter?
Je vois pas comment ils peuvent remonter. Objectivement, Aubameyang qui dit oui en tant que capitaine.
C'est quoi, c'est une équipe déclassée, décadente, déprimée?
Mais je le dis toujours de cette manière-là. Vous voyez le 11 à peu près, voire un peu plus avec les remplaçants.
Bah oui, on regarde le 11 et on se dit.
Et quand vous regardez ce 11, là je l'ai sous les yeux, quand vous voyez ces joueurs-là, est-ce qu'il y a un grand du top 4, hein, autre, United, City, qui prend ces joueurs-là? Justement. Est-ce que vous prenez ces joueurs-là?
C'est Salim Mangala. Juste Saka.
Franchement. Bukayo Saka.
Ah oui, Saka. Sur le banc. Sur le banc.
En ce moment, je dis bien en ce moment, alors que Aubameyang est un joueur de talent absolu, Aubameyang, je le prends pas. Je le prends pas. Il est pas bon comme les autres le sont.
Oui, non, mais c'est ça qui est dingue. C'est zéro point, mais c'est zéro but depuis le début de saison.
C'est ça. Oui. Et il y a aussi très peu d'occases. Pardon, c'est important.
Alors, il y a beaucoup de blessés ou de malades. Il y avait eu au départ.
Oui, il y a
pas mal de
COVID. Mais c'était un cluster, hein, pour le coup. Ben White, qui a été le joueur le plus cher de ce mercato, qui est toujours
parce qu'ils ont dépensé 147 millions en mercato.
Mais c'est l'équipe en Angleterre qui a le plus dépensé, en l'occurrence. Ben White, qui a été acheté plus de 58 millions, touché par la COVID. Sambino Konga, qui est sur le banc. Enfin, oui, ils ont pas de bol. OK, mais ça vous empêche pas, parce qu'il y a des joueurs qui l'année dernière étaient présents et qui sont à la base pas mauvais, mais je vous rappelle, au bout de 12 minutes, il y avait 2-0 à un moment donné, et les deux buts en question, Gundogan qui marque de la tête devant Chambers, le deuxième but Ferran Torres qui est tout seul, à un moment donné, cette défense était catastrophique, les joueurs ne sont pas bons, tout simplement.
Déprimant, mais pour terminer sur un beau match, n'est-ce pas Marc,
oui.
Pour
le
vous faire
Norwich.
Plaisir, parlons de Liverpool-Chelsea.
Ah oui, West Ham. Ah oui, voilà.
Le choc en rouge et bleu qui a finalement rendu, certes, un match nul, c'était 1-1, mais écoutons l'entraîneur, l'un des deux entraîneurs allemands. Il s'agit de Klopp, Jürgen Klopp. Il était épaté quand même par le niveau du match.
C'était un match difficile pour les deux équipes. Nous aurions pu penser, avant la rencontre, que Chelsea nous écraserait. Cela ne s'est pas produit ni en première ni en seconde période, évidemment. C'est rare d'avoir ce genre de plaisir. L'intensité qu'ont mis les deux formations a vraiment été incroyable. Et puis l'atmosphère qu'a pu apporter les supporters, c'était vraiment agréable. Voilà, 7 points, c'est un bon début. Les garçons vont partir en sélection. J'espère qu'ils reviendront en bonne santé. Et ensuite, nous devrons jouer contre Leeds.
Marc, un match pour passer un très bon moment.
Un match qu'on aimerait en voir tous les week-ends. On a quand même l'entraîneur qui a fait match nul avec une équipe qui a joué pendant 45 minutes à 10
et qui vous explique
qu'il a pris son pied. C'est-à-dire tactiquement, techniquement, tout ce qui s'est passé dans l'état d'esprit, la mentalité. Je regrette juste qu'il y ait ce carton rouge qui arrive parce qu'on se dit, ah, ça va un petit peu détériorer. Et puis là, on se rend compte que l'intelligence de Aspilicueta, de Chris, de tous ces joueurs-là, défensivement, les consignes, c'est comme ça. C'est pas autrement. C'est-à-dire que là, il y a Thomas Tuchel qui est pour moi l'alchimiste parfait de ce qu'on. Enfin, je sais pas. Et nous, ici, on en rigole encore.
On sait que c'est un tacticien très très.
Oui, mais on peut avoir des très très bons tacticiens. Après, on peut avoir des bonnets sur le terrain. Là, il a pas des bonnets. Les mecs, ils écoutent. Aspilicueta, il y a encore deux ans, on nous disait ah, il est fini. Bah non, Aspilicueta, c'est super dur, c'est pas évident. Mais et puis.
Ancien Marseillais.
Les joueurs qui rentrent, il a été très bon en Marseille.
Non mais sur les deux côtés, Aspilicueta et Marcos Alonso.
Mais c'est vrai que dans l'état d'esprit, la mentalité, c'est magnifique. Et croyez-moi, même s'il y a un partout, que ça soit Liverpool, ils ont pris un pied fantastique. Quand il y a ce genre de rencontre,
on le sent.
Hein. Voilà, c'est magnifique. Quoi.
Nico.
Après, on peut dire ce qu'on veut. Alors, l'APL, ça reste quand même le top du foot.
La première ligue.
Ouais, la première ligue. Excusez-moi.
Il parle que en abréviation, ce Nicolas.
Hier, c'est OK.
it was a good game yesterday.
Yeah.
But...
yeah, it was a top game. it was top, comme dirait Jürgen. Non, c'est Thomas Tuchel qui dit ça. Non, mais l'APL, c'est quand même un championnat. La première ligue, c'est quand même un championnat qui est fantastique. Alors, OK, c'est super bien réalisé. Les pelouses sont dingues. Il y a de l'ambiance dans les stades, etc. Mais en termes d'intensité. Oui. Alors après, oui, un club comme Arsenal, qui est dernier de première ligue aujourd'hui avec aucun but marqué et aucun point, il claque 150 millions d'euros. Donc, forcément, ça aide aussi à avoir de la qualité. On a plus d'argent pour faire venir les joueurs. Mais quand on voit un match comme ça, en fait, c'est rare que les chocs soient mauvais en Angleterre. Souvent, il y a des matchs tendus parce que justement, il y a cette tension. Il y a une certaine inhibition, etc. Et là-bas, ça arrive quasiment jamais.
Salim.
Non, ce match-là, vraiment, il y avait des choses.
C'est dû aux entraîneurs aussi, à ces deux personnalités incroyables.
Il y a tout. Encore une fois, ce match-là, et on en avait suffisamment parlé, c'était le match de tous les duels possibles. Klopp Tuchel, Van Dijk, Lukaku.
Non, mais même avec les managers bidons, moi je me souviens, comment il s'appelle, Sam Allardyce, qui est quand même, il fait même pas les entraînements, il est pas là de la semaine. Mais c'est pas une blague, hein, ce que je dis.
Non, bien sûr.
Il donne à ses hommes, il fait, OK, bosse pour moi, moi je reviens pour le match. Et il fait sa compo et il reste là et puis il se barre.
C'est ça.
Et même lui, alors qu'il était pas jamais descendu avant la saison dernière avec West Brom. Même avec lui, il y a du spectacle.
Mais Salim,
t'as vu, je t'ai coupé là.
Pour terminer.
Oui, non, mais encore une fois, c'était un match de tous les duels possibles, imaginables. Et c'est vrai que c'est un match qui lance parfaitement la saison. On est qu'à la troisième journée, un tel niveau. Chelsea, surtout. Moi, c'est Chelsea qui a gagné au point, j'ai envie de dire.
Et qui impressionne tout le monde en ce début de saison.
Et West Ham aussi.
C'est la deuxième du championnat.
Et Norwich. C'est comme une émission internationale.
C'est la fin, à demain.
On a des super émissions.
Autour